Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors on continue cette histoire d'Etrog là, on est suspendu à la suite. Voilà. Va-t-il pouvoir acheter cet Etrog, ce pauvre papa
voilà,
fauché
donc, voilà, exactement. Donc effectivement, on avait laissé donc la famille devant ce cédra, devant cet Etrog, hein, donc une nouvelle de Sholom Aleichem. Voilà, donc, rappelons un petit peu les choses. C'est une famille assez pauvre. Donc, le rêve du père est d'acheter un cédra. Il y a Hensel, l'abatteur rituel, qui a amené toute une caisse avec des cédras magnifiques. Le père est en train de les examiner. Et puis, finalement, il en achète un. On ne sait pas d'où il a trouvé l'argent, mais enfin, cette année, il peut en acheter un. Et il va le montrer à sa femme, qui s'appelle Bassie Baile, et il la laisse seulement sentir le cédra. Elle n'a pas le droit de le toucher, elle doit juste le sentir. Et quant à l'enfant, il n'a même pas le droit de s'en approcher. Et voilà que la mère prononce une phrase assez dure. « Ah, le voilà déjà !» dit ma mère. « Et ne le laisse pas s'approcher !» fit-elle en me montrant du doigt. « Car il serait capable de mordre la protubérance du cédra. » Oui, parce que les cédras, donc, ont un petit...
pointe, comme ça.
Une petite pointe, voilà. Une pointe qui est très importante, qui doit être intacte, qui doit être assez grande. Il y a vraiment... c'est très important. Et le père dit « Dieu nous préserve », dit mon père, tout effrayé par cette méchante phrase. « Que Dieu de miséricorde nous garde et nous sauve, lui va en aide le tricorne et les rubans sagittaires. » Donc, voilà ce cédra qui est dans la maison, tel un diamant, tel une pierre précieuse, tel un objet de valeur qu'on confie et qu'on doit cacher, garder comme la prunelle des yeux. Ainsi avons-nous pris l'odorant cédra emballé dans de l'étoupe comme on envelopperait un enfant chétif, un enfant unique. Et on l'a déposé doucement, lentement, dans sa belle boîte à sucre de couleur, en bois, ronde et polie. On demanda pardon au sucre et à sa place, on déposa le cédra comme un aimable invité. « Bienvenue, monsieur le cédra. Allez, entrez dans la boîte, bien enveloppée d'étoupe, scellée avec le couvercle, déposée dans l'armoire vitrée. On referma la porte et au revoir. J'ai bien peur que le gredin ne se faufile vers la commode et ne morde la protubérance du cédra. C'est ce qu'a dit encore une fois ma mère, et elle a pris Label par la main pour l'entraîner loin de l'armoire. C'est ainsi que le pauvre Label, comme un chat qui flaire le beurre, a pendant de longs moments tourné autour de l'armoire, regardé à travers la vitre, souri à la boîte avec le cédra. Il a tourné et tourné tellement longtemps jusqu'à ce que sa mère s'en aperçoive. Et son père lui cria « Va à l'école, espèce de voyou, n'y pense même pas, file d'ici, débarrasse le plancher. » Tout penaud, Label courba la tête, baissa les yeux et partit à l'école. Vous voyez, il y a toujours ce changement entre je et le Label. Hein. Il y a des choses extérieures, enfin, il le décrit de l'extérieur et parfois il prend la parole.
C'est bizarre ça, il ne fait pas toujours comme ça.
Non, souvent c'est le je tout le long, oui. Mais là il y a parfois une distanciation.
Oui.
Lorsqu'à l'école j'ai étudié la Genèse dans le Pentateuque, je me suis plus d'une fois demandé « Que serait-il passé si Dieu, en installant Adam et sa femme ou Ève au paradis, ne leur avait pas dit quels étaient les fruits qu'ils pouvaient manger et ceux qu'ils ne pouvaient pas manger ? Le serpent n'aurait eu aucune emprise et il n'aurait pas pu suggérer à Ève de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Et Ève n'aurait pas donné un morceau de pomme à son mari et Dieu ne se serait pas fâché contre eux. » Et nous nous serions encore aujourd'hui promenés dans le jardin d'Éden. Les pères seraient certainement occupés à étudier, les mères en train de ravauder des bas ou de plumer des volailles. Et nous, les jeunes garçons, nous serions en train d'escalader des montagnes, nous aurions cueilli des dattes, mangé des grenades, nous nous serions remplis les poches de caroubes et baigné des journées entières dans le fleuve. Ces quelques mots que Bassier Bailey adressa à son mari. Si tu le laisses seulement approcher, tu verras qu'il te mordra la protubérance du cédrat. Furent pour Label comme un poison mortel, un venin qui s'insinua dans ses veines. À partir de ce moment, la protubérance du cédrat s'insinua dans l'esprit de Label et ne sortit plus de ses pensées, ne fût-ce qu'une minute. La nuit, elle rôdait dans ses rêves, le harcelait, lui tirait les vêtements en criant « Tu ne me reconnais pas, idiot, je suis la protubérance !» Label se retournait de l'autre côté, gémissait, et de nouveau on le harcelait. « Lève-toi, abruti, va ouvrir l'armoire, sors le cédrat de sa boîte et mords-moi, tu verras le plaisir que tu ressentiras !» Le matin, lorsque Label se réveilla, il fit comme chaque jour ses ablutions, récita les prières, prépara son déjeuner. En passant près de l'armoire, il jeta un coup d'œil et vit à travers la porte vitrée la boîte qui contenait le cédrat. Il lui semblait qu'elle lui faisait un clin d'œil, l'appelait, lui faisait les yeux doux. « Viens, viens, petit garçon !» Label prit ses jambes à son cou et partit pour l'école en courant. Une fois, un beau matin, Label vit qu'il était seul, tout seul à la maison. Son père était au travail, sa mère au marché, la servante juive à la... s'occupait à la cuisine, le petit était couché dans son berceau, les mains en l'air et souriait. Jetant un regard vers l'armoire, il aperçut la boîte à travers la porte vitrée. Et elle l'appela en disant « Viens, viens, petit garçon !» Lentement, lentement, avec mille précautions, Label s'approcha de l'armoire, ouvrit doucement la porte vitrée, sortit la boîte. Il ouvrit le couvercle. Et il fut assailli par un puissant arôme, une odeur vigoureuse, un parfum de paradis. Et le cédrat se retrouva entre ses mains et la protubérance lui sauta à la figure. « Veux-tu avoir du plaisir? Veux-tu ressentir un goût de paradis? Viens, mords-moi, n'aie pas peur, Nigo, personne n'en saura rien. » Vous voulez certainement savoir ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai mordu la protubérance du cédrat? Est-ce que je me suis retenue? Et je n'ai pas mordu la protubérance du cédrat. Vous voulez le savoir? Eh bien, dites-moi alors ce que vous, vous auriez fait à ma place si on vous avait conjuré plus de 10 fois de ne pas vous hasarder à mordre la protubérance du cédrat. N'auriez-vous pas voulu savoir quel goût elle peut bien avoir? Voilà, donc notre Label...
Tu nous laisses encore une fois dans cette...
Que va-t-il se passer? Donc, il a mordu. En tout cas, nous savons qu'il a mordu cette protubérance. Et maintenant, que va-t-il se passer?
Oui, oui, ça va probablement mal se passer. Alors, c'est formidable comme il demande au lecteur ce qu'il aurait fait lui-même. Hein. Il nous intègre dans son dilemme. J'ai choisi, ça n'illustre pas, mais ce sont des chansons chantées par des enfants, puisque c'est un enfant qui parle. Ce très joli disque enregistré par Ben Tekahan, ça fait déjà quelques années, ça doit dater de 2000, je pense, il n'y a pas la date là. Cette formidable chanteuse qui vit maintenant à Wroclaw, qui chante, et puis sa fille chante aussi. Donc là, elle avait encore une voix d'enfant, je suppose que maintenant elle est une véritable chanteuse yiddish. Et voilà, j'ai choisi deux titres. Le premier, c'est Eufen Pripetschik. C'est un titre très connu sur un texte de Warshawski qui parle justement de la transmission. De la transmission de Aleph Beis, de l'alphabet, par le Reb dans le Cheder avec les enfants. Donc Eufen Pripetschik, chanté par Ben Tekahan et les enfants en yiddish.
Eufen Pripetschik brennt a fejjel, mir stup is heiß. Der Rebbe lernet kleine Kinderlach, dem Aleph Beis. Der Rebbe lernet kleine Kinderlach, dem Aleph Beis.
Was sie lernen doch.
Jolie
voilà,
voix d'enfant.
Ils chantent ouais. Joliment, tous ces petits enfants, oui.
Donc, nous, Soukhot s'approche, et là, c'est pas le père de Leibel, Moïse Yankel, qui construit la soukha, mais c'est leur voisin, Zalman, le menuisier, qui est quelqu'un de très solide et qui sait tout faire, voilà. Donc, c'est lui qui construit la soukha. Et puis maintenant, on se rapproche de Soukhot, donc le père prend un loulav, donc le loulav, c'est quatre espèces liées ensemble, qu'on secoue, et avec l'étrog. On tient d'une main l'étrog, de l'autre cet ensemble de plantes, et puis c'est le loulav. Et donc, on recommande de nouveau à Leibel de ne pas toucher le loulav, et Leibel laisse le loulav en paix. L'idée de s'en approcher ne lui traversa même pas l'esprit. Il avait tout autre chose en tête. Qu'est-ce qui se passera si on s'aperçoit que quelqu'un a mordu la protubérance du cédrat ? De fait, dès qu'il l'eut mordu, Leibel recolla la protubérance au cédrat avec de la salive. Mais est-ce que ça va tenir ? Au secours, que va-t-il se passer ? Quelle excuse pourra-t-il trouver ? Comment pourrait-il regarder encore son père et sa mère en face ? Alors, lorsqu'il niera tout en leur disant qu'il ne sait rien de cette énigme, qui voudra bien le croire ? Mais pourquoi il avait fallu qu'il fasse ça ? Qu'est-ce qu'il en a retiré ? Qu'est-ce que ça a comme goût, la protubérance d'un cédrat ? Ben, c'est amer, amer comme de la bile. Quelle méchante déception ! Il a fait tout ça pour rien du tout. Il a abîmé un fruit, profané un si beau cédrat. Et si le cédrat n'a plus de valeur, de quoi aurait-il l'air à l'école devant ses camarades ? Il se considérait comme un assassin. Il avait pris un être vivant, lui avait mordu la tête et l'avait privé de vie. Pourquoi ? Pour qui ? Qu'est-ce qu'il lui avait fait ? Partout, à chaque instant, il voyait devant lui la protubérance arrachée, le cédrat mort. La nuit, pendant son sommeil, le cédrat lui apparut en rêve et lui disait « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi as-tu arraché ma protubérance ? Maintenant, je suis impropre, impropre, impropre au rituel. » Leibel se retournait, gémissait, et on la harcelait de nouveau. « Égorgeur, pourquoi t'en es-tu pris à ma protubérance ?» Et voilà le jour de Soukhot qui arrive. Et donc, on décide de secouer le loulav avec le cédrat. Et comme c'est donc ce Zalmen, le menuisier, qui avait construit la soukha, on lui laisse l'honneur de prendre le cédrat et de faire le premier la bénédiction. Reb Zalmen demande qu'on lui apporte le loulav et le cédrat, dit la mère au père. Va à l'armoire et sors la boîte, mais doucement, lui répondit le père. Il mit une chaise contre l'armoire et descendit le loulav. Tenez, bénissez le cédrat, dit-il à Reb Zalmen, mais doucement, par Dieu, doucement. Zalmen, le menuisier, était bâti comme un colosse, avec deux mains et des doigts qui auraient pu abattre trois Leibel comme moi. Chacun de ses pouces se terminait par un ongle toujours enduit de colle et rouge de lac, et son ongle, lorsqu'il le passait sur le bois, l'incisait comme du fer. À l'occasion de la fête, Zalmen s'était vêtu d'une chemise blanche et d'un nouveau caftan. Il s'était savonné les mains avec de la cendre et du sable. Mais ses mains restaient enduites de colle et ses ongles rouges de lac. C'est dans ses mains-là que tomba le cédrat. Zalmen le menuisier prit le cédrat, le pressa énergiquement et secoua bien le loulav. « Doucement, doucement, dit le père. Aujourd'hui, veuillez m'excuser, retournez le cédrat avec la protubérance vers le bas et dites la bénédiction doucement, doucement. » Moïse et Yankel, le curateur, ôta un mouvement brusque et se mit à hurler d'une voix qui ne ressemblait plus à une voix humaine. « Oh !» En entendant ce cri, Bassier Bayle arriva en courant. « Que se passe-t-il »« Grosse brute, ignare !» s'écria-t-il à l'encontre du menuisier. Il était prêt à le piétiner. Comment peut-on être aussi demeuré? Mais quel ignare! Est-ce qu'un cédrat est une hache, un burin? Un cédrat n'est ni un hache, ni un burin. Vous l'avez égorgé sans même un couteau. Vous avez profané mon cédrat. Regardez, elle est là, sa protubérance, espèce de grosse brute. Nous étions tous comme morts. Zalmen, le menuisier, était le pauvre comme mort, ne comprenant pas comment un tel malheur avait pu lui arriver. Comment se faisait-il que la protubérance soit tombée? Il avait à peine tenu le cédrat du bout des doigts. Moïse Yenke, le curateur, était plus mort que tous les morts. Il n'était même pas encore allé à la synagogue, le cédrat, n'avait même pas dit la première bénédiction et il était déjà fichu. Quel avait-il besoin de mettre ce coûteux, ce délicat fruit entre des mains si rustres? Cela le rendait malade de devoir bénir à la synagogue le cédrat communautaire. Bailé était aussi comme morte, se tordait les mains. Quand une personne a de la malchance, dit-elle avec des larmes dans les yeux, elle ferait mieux de s'enterrer vivante, fraîche et bien portante. Leibel se tenait là, comme mort lui aussi, et tremblait de peur devant la peine de son père, devant les larmes de son mère et l'humiliation de Zalmen de menuisier. Leibel ne savait pas s'il devait danser de joie, puisque Dieu avait fait pour lui un tel miracle et l'a libéré d'un tel souci, d'un si grand malheur, ou bien s'il devait pleurer de la peine de son père, des larmes de sa mère et de l'humiliation du menuisier. Devait-il prendre dans ses bras Zalmen et embrasser ses énormes mains, parce qu'il avait été son ange gardien, son sauveur, son libérateur? Leibel contemplait le visage de son père, les larmes de sa mère, les mains du menuisier, le cédrat qui traînait mort sur la table, jaune comme de la cire, sans protubérance, sans un souffle de vie, un cadavre, une dépouille. « Un cédrat mort !» dit mon père d'une voix brisée. « Un cédrat mort !» répéta ma mère avec des larmes dans les yeux. « Un cédrat mort !» reprit alors suite Zalmen le menuisier. Il regardait ses mains et pensait, sans doute en même temps, ses deux mains puissent-elles se dessécher. Voilà, ouais. Une histoire à la fois triste et bon, et quand même, ce petit garçon s'en sort bien, mais avec quel remords.
On entend un petit peu le fonctionnement de beaucoup des nouvelles de Shalom Aleichem, c'est quand même souvent comme ça, comme avec le couteau. Quand il a volé le couteau dont il est, et le couteau parle, le couteau dit « Viens, prends-moi,
il rêve. » Oui, c'est ça. Là aussi, il y a une personnification des objets. Déjà chez lui, je pensais à Kadia Molodowski, donc, qui est une écrivaine que j'étudie beaucoup et qui, elle aussi, fait personnifier les objets. Mais là, vraiment, ce cédrat est tout à fait vivant.
Il est vivant, après il est mort. Quoi. Oui, il est vraiment comme humain.
Oui, tout à fait comme un humain. Et puis, ça montre aussi l'extrême importance qu'à l'époque, on attachait à tout ça, comment c'était un rêve de toute une vie d'avoir un vrai cédrat.
Incroyable. C'était compliqué, ça venait d'Israël.
Oui, alors là, ça vient de Corfou. Et j'ai retrouvé le titre du film, donc « Tu choisiras la vie », donc ce film de Stéphane Fraise, avec Lou Delage d'ailleurs, qui parle justement de ce groupe de juifs très religieux qui vont, alors là, c'est dans le sud de l'Italie, cueillir ces cédrats, et on les voit examiner chaque cédrat et regarder si la protubérance est bien correcte et cachère. Et ensuite, ils les mettent effectivement soigneusement dans des caisses avec du coton, etc. Voilà, c'est vraiment des objets extrêmement précieux. Bon, en plus, à l'époque où vraiment il n'y avait pas beaucoup de fruits, enfin, en tout cas, c'est un fruit exotique. Ils n'avaient pas à l'époque des mangues et tout ça, et des fruits de la passion. Donc, le cédrat était vraiment l'exemple de l'exotisme. On va l'illustrer avec...
Oui, ce n'est pas illustré, mais c'est encore une chanson. C'est du même disque, donc ce sont les enfants qui chantent. « Das Lied von Goldenem Land », donc la chanson du pays doré, dont ce n'est pas spécifié, c'est une très belle chanson sur un texte de Gebirtig, pas spécifié quel est ce Goldenem Land. C'est le land où surtout la mer est très présente, c'est un petit peu le passé. On peut aussi penser que pour les Juifs du Vieux Monde, de Pologne, d'Ukraine, c'est l'Amérique, mais on peut aussi penser que c'est un monde, une espèce
imaginaire,
de paradis.
Oui, imaginaire.
Donc on va terminer avec ça. « Das Lied von Goldenem Land », donc chanté par Bente Kahan et son groupe d'enfants.
Voilà, on vous dit déjà « Shalom Aleichem » la semaine prochaine.
Oui, et merci Thomas.
Einem guter Klezmer dein Fiedel in Hand
und spiel mir das Liedl von goldenem Land.
Amol pflegt mein Mame mit Herz und Gefühl das Liedl mir singen und spiel es mir spiel. Amol pflegt mein Mame mit Herz und Gefühl das Liedl mir singen und spiel es mir spiel.
Amol ist gewesen
in a goldenem Land,
a kluger Ben Jochit,
a schöner Brillant. Sie singt und es tick-tack, der Segel zum Ruh, uns wie alle heute sich Halleluja. Sie singt und es tick-tack, der Segel zum Ruh, uns wie alle heute sich Halleluja. Und hör ich das Liedl, das süße Gesang, dann wird eufen Hans aus der Umetig bang. Uns will sich wie die Mame mit Herz und Gefühl das Liedl mir singen und spiel es mir spiel. Uns will sich wie die Mame mit Herz und Gefühl das Liedl mir singen und spiel es mir spiel.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.